Bruno Nouret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire de Lisieux et vous souhaitez exprimer vos vœux pour l'année 2019 à la population illaise. On vous écoute.
Oui, tout à fait. Moi, je suis content d'être encore une fois parmi vous aujourd'hui, de m'exprimer à la radio et surtout de présenter mes vœux à la population, tous mes vœux de bonheur, de réussite, de santé à tout à chacun et que Lisieux continue de progresser dans le bon sens.
Quelles sont les priorités d'ailleurs de l'équipe municipale pour cette année 2019?
Il y en a plusieurs, hein, parce qu'il y a beaucoup de dossiers en cours, donc c'est avant tout de les mener à bien, de continuer à œuvrer pour le bien public à Lisieux.
Par exemple, la redevance incitative.
Il y a la redevance incitative, donc là on est dans la phase de mise en place. On a eu plutôt... une bonne nouvelle, parce que bon, il y a eu beaucoup de critiques, d'incompréhension. La redevance incitative, c'est deux choses. C'est d'une part la redevance, et d'autre part l'incitation. Alors la redevance, c'est quoi? C'est de remplacer un système où on payait, tout à chacun payait les poubelles sur la taxe d'habitation. C'était un pourcentage de la valeur locative de la maison.
Donc, ce qu'on appelait la TEOM.
La TEOM. Donc vous ne payez pas le même montant que votre voisin alors que vous avez le même service. Alors certains payaient plus, d'autres payaient moins. La redevance met tout le monde sur un pied d'égalité vis-à-vis du service.
Certaines personnes ont eu des surprises tout de même en recevant cette première facture.
Oui, parce que
les prix ont augmenté pour eux.
En moyenne, tout le monde paye pareil, mais certains, ben oui, mais certains payent plus et d'autres payent moins. Donc forcément, on entend davantage ceux qui payent plus, c'est toujours comme ça. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui payent moins, qui ont des valeurs locatives élevées. Et donc, ça veut dire quoi? Que certains payaient pour les autres, ce qui n'était pas complètement juste. Donc là, tout le monde paye pareil. Donc ça, c'est il s'agit de justice, quoi.
Vous pensez que la population illaise a bien compris le principe de cette redevance incitative?
Oui, globalement, parce que alors la deuxième partie, c'est l'incitation. Pourquoi l'incitation? Parce que tous les ans, on augmente notre production de déchets. Tous les ans, les budgets augmentent. Et cette redevance incitative, elle est aussi mise en place à l'échelle de la Vendée. Il y a aujourd'hui à peu près 2/3 des Vendéens qui sont à la redevance incitative. Pour certains, depuis très longtemps, hein, le pays de Montaigu, ils ont mis ça en place en 2002. Ils sont la zone en France, enfin la ville en France, qui produit le moins de déchets. Donc voilà, ils ont mené des actions, etc. Mais eux aussi, par l'intermédiaire de leur facture poubelle, cotisent à Trivalis, qui est le syndicat de retraitement, comme pour Lisieux, qui paye le transport des déchets sur le continent. C'est-à-dire que si on n'adhérait pas à Trivalis, à minima, notre facture de poubelle augmenterait de 30%. Et c'est bien l'intégralité des Vendéens, nous y compris bien sûr, qui payons le transport de nos déchets vers le continent. Alors comment dire à quelqu'un qui habite dans une zone où ils font tous des efforts pour leurs déchets, que nous, on allait continuer à pas s'en soucier, à envoyer tout ça sur le continent, puisque c'est eux qui payent. C'est une position qui est pas tenable. Donc l'incitation, c'est aussi de prendre conscience chacun du volume de nos déchets, de se dire, bah tiens, les fermenticides, je peux peut-être mettre un composteur, etc. Bon, aujourd'hui, je disais, les gens l'ont bien compris, parce que en l'espace de 2 ans, on a réduit notre production de déchets de 25% d'ordures ménagères.
Alors, ce qui veut dire que les gens trient mieux.
Oui, entre autres, il y a eu l'extension de tri, donc qui a vidé un peu notre poubelle au profit des emballages. Mais ça ne pèse que pour 1/3 de la réduction de volume. Donc il y a eu vraiment un effort de tout à chacun. Et du reste, comme on produit moins de déchets, ça nous coûte moins cher. Donc par rapport à ce qu'on avait imaginé en grille tarifaire, on va pouvoir faire baisser la partie la partie fixe, mais pas l'abonnement, hein, la partie fixe du nombre de levées de 12%. Donc ça va baisser la facture de tout le monde.
La facture a baissé de 12%.
C'est ça.
Est-ce qu'on peut dire ça comme ça?
Alors, j'entends les gens qui disent, oui, mais attendez, moi avec la TEOM, je payais tant. maintenant je paye plus cher alors que je fais des efforts et que ma poubelle, etc. Oui, parce qu'avant, vous n'en payiez pas le vrai prix. C'est d'autres qui payaient pour vous. Donc maintenant, on en paye tous le vrai prix. Maintenant, pour que baisser la facture de poubelle de tout le monde, il faut que ce soit un effort collectif. Donc les efforts de chacun aujourd'hui payent puisqu'on peut baisser la facture de tout le monde.
Le nombre de levées, c'est suffisant, c'est trop, c'est pas assez. Il y a certaines aussi critiques là-dessus.
Ouais. Vous savez, on s'est beaucoup appuyé sur l'expérience des collectivités qui avaient mis la redevance en place. Si on était parti sur un nombre de levées trop élevé, après descendre le nombre de levées, c'est toujours très, très compliqué. Donc il vaut mieux avoir un objectif assez ambitieux, quitte à le revoir et puis relâcher un peu. Bon, aujourd'hui, quand on prend les taux de présentation de bac, on n'a pas trop de dérapage. On a un peu plus de dérapage l'été, qui n'est pas seulement du fait des résidents secondaires, mais aussi des résidents permanents. Il y a plus de monde dans les maisons, les enfants sont là, etc. etc. Bon, pour cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a permis d'avoir davantage d'accès au soleil PAC, hein, parce que dans les forfaits, c'était un par trimestre. Là, on va passer à trois par trimestre, ce qui va permettre que ce soit un peu plus souple. On réfléchit, hein, on avance en marchant. Il n'y a pas de vérité gravée dans le noir, mais il faut pouvoir ajuster. Si tout le monde dérape un peu l'été, alors qu'on avait fixé un objectif peut-être un peu trop dur, bon, on mettra... alors, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, peut-être une levée supplémentaire dans le forfait l'été. L'objectif, c'est pas de pénaliser les gens, c'est que tout le monde fasse attention à sa production de déchets et pour que ça coûte moins cher à tout le monde, au moins que ce budget-là se stabilise. On va pas indéfiniment produire davantage de déchets, payer plus cher et donc... parce que personne hurle, mais c'est très simple, hein, d'augmenter sur la TOM la part sur les déchets. Tout le monde regarde les impôts locaux, il regarde pas forcément la part sur la TOM. Aujourd'hui, en recevant une facture, oui, on voit un peu plus ce qu'on paye et on verra les efforts de chacun pour arriver à contenir ce budget et voir le baisser, quoi. C'est ça l'objectif.
Vous nous avez parlé des soleils PAC. En cette fin janvier 2019, ils ont disparu de l'île-Dieu.
Non, ils sont à l'île-Dieu. bon, il y a eu quelques petits soucis techniques. Ça ne remet pas en cause le dispositif. Donc, voilà, ça fait ça quand c'est neuf.
Le parc éolien entre l'Île-Dieu et Noirmoutier, la mairie de l'Île-Dieu est-elle toujours favorable à ce projet ?
Oui, bien sûr. Nous, on s'était positionné assez tôt là-dessus.
Vous étiez pour depuis le début ?
Pas depuis le début, parce que il y a eu des projets dès le début des années 2000. Qui était très proche de la côte, entre l'île et le continent. Il y a eu, quoi, on avait tout rejeté. Bon, les technologies permettaient d'aller plus loin. C'est à partir de ce moment-là, on s'est dit, oui, on va étudier. Et ce qui avait guidé aussi la réflexion, c'est de se dire, ça peut être une chance pour l'île-Dieu, pour l'emploi, avoir de l'emploi. Parce que il y a une dizaine d'années, faut qu'on se dise tout quand même. Il y a une dizaine d'années, le discours ambiant à l'île-Dieu, c'était ouais, l'île-Dieu c'est foutu, les jeunes s'en vont. Bref, il y avait une espèce d'avenir bouché. Avec ce parc éolien et donc une perspective d'emploi pour l'île, on redonnait de la visibilité aux gens, etc. Et aux jeunes. Et on se disait, ouais, c'est une vraie chance. Et finalement, cette question, les jeunes s'en vont, etc., au fil des années, ça a complètement occulté cet état de fait. Hein, et aujourd'hui, c'est devenu presque moins important. Et faut se rappeler d'où on vient. On peut ne pas faire de parc. Du reste, c'est pas nous qui le déciderons. Hein, mais c'est quoi l'avenir pour les lieux? On voit bien qu'il y a des activités économiques qui souffrent, qui ont du mal à se maintenir au fil des années et des décennies. Je pense malheureusement à la pêche, hein. C'est une réalité. Tous les ans, tiens, il y a un bateau qui part, etc. Qu'on a aussi dans les métiers du bâtiment, même si aujourd'hui il y a un peu plus de boulot qu'il y a quelques années. Voilà, il y a des aléas qui sont et on n'aura pas de développement économique par ailleurs. Donc on veut quoi qu'à terme qu'on soit une île de 3000 habitants avec des fermetures de classes. C'est très difficile de gérer une perte de population. L'objectif qui nous a toujours conduit, c'est de maintenir notre population de 5000 habitants à l'année. Et ça, c'est un élément important pour y arriver.
Vous pensez toujours que le parc éolien va créer de l'emploi sur l'île-Dieu ?
Ben oui, c'est l'engagement qui a été pris. Hein. Vous savez, quand on a négocié, parce que j'ai tout lu...
C'est pour ça que je vous pose la question.
Oui, oui, oui. Quand on a négocié avec le consortium, on n'a pas été des bénis. Oui, oui, hein. je peux vous dire que ça a été des négociations qui ont été dures, parfois sur des points de détail, etc. Mais nous, c'est l'exigence. S'il n'y a pas de maintenance à l'île-Dieu, il n'y aura pas de parc. C'est ça la clé. Donc, parce qu'on s'y opposera. Nous, l'acceptation, elle est bien liée aux emplois qui vont avec.
La médiathèque pour l'île-Dieu, c'est en cours. C'est un projet pour le moment où ça va se faire.
Alors, on parle d'équipement public du Petit Chiron, parce que...
Plus de médiathèque.
Non, parce que c'est un peu trop réducteur.
Au début, vous parlez de médiathèque, c'est pour ça que j'en parle.
Au début, oui. Après, c'est peut-être un peu trop réducteur, parce que sur le Petit Chiron, actuellement, on a le centre de loisirs, les trainbottes, et aujourd'hui, on a une bibliothèque qui est dans l'école publique.
À l'école du Ponant.
Ouais, l'école du Ponant, qui est trop petite pour l'usage qu'on a en faire. Et puis, on a un certain nombre de services qui sont un peu éclatés. Je pense au service patrimoine qui est actuellement au pôle économique, où il y a besoin quand même d'avoir des bureaux, des ateliers, etc. On a nos archives municipales qui sont au-dessus de l'ancienne caserne des pompiers, la salle Collinet, qui ne sont pas dans des conditions satisfaisantes. Il faut un endroit vraiment pour les archives municipales, c'est important. Pouvoir les restituer au public, leur donner accès. On a donc cet équipement, les traîne-bottes à faire, et puis l'aspect plus bibliothèque. Donc l'équipement, c'est ça, c'est cet ensemble, donc c'est un peu plus large qu'une simple médiathèque.
Ça va être un lieu pour plusieurs services.
Pour plusieurs services. Alors, pourquoi on l'a positionné au Petit Chiron ? C'est longtemps demandé, on va là, on va là. On a fait plus et les moins. Puis finalement, le Petit Chiron s'est imposé à nous pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'il y a un parking qui est pas très loin. Place de l'Église. D'autre part, il y a le cinéma à proximité qui va jouer en complémentarité avec cet espace. On est près des chaînes vertes, de l'EHPAD, parce qu'il y a le service patrimoine qui fait beaucoup d'ateliers mémoire. Et puis, c'est aussi permettre à nos anciens d'avoir un équipement culturel à proximité, mais aussi à proximité des 9-12 ans, hein, le public des traîne-bottes. C'est important d'avoir cet accès à la culture en général, aux livres en particulier, mais à différentes formes culturelles. Donc ça va créer un dynamisme, ça va être un vrai outil pour le territoire, en sachant qu'on est la dernière commune de Vendée de 5000 habitants à ne pas avoir ce type d'équipement.
Quoi. Mais ça va se faire ?
Bien sûr.
À partir de quand ? Est-ce qu'on a une date de début de travaux ?
Pour que ce soit tout accepté, là, il faut faire le dépôt de permis, retenir les offres... Cet automne, probablement.
Automne 2019.
Ouais.
En vous écoutant parler, Bruno, ça va être un lieu plutôt multigénérationnel.
Oui, tout à fait.
Est-ce que c'est une envie ?
Est-ce que ?
C'est une envie.
C'était, oui, oui, c'était une vraie opportunité. L'idée, c'était pas de mettre une médiathèque. Enfin, faut qu'elle serve au public vers qui elle est destinée. D'abord, les jeunes. Donc, c'est pour ça qu'on laisse les traîne-bottes à côté. On a nos aînés qui sont dans les pattes, qui vont pouvoir avoir accès à tout un tas d'informations, tout un tas de, mais aussi le service patrimoine, etc. Enfin, ça va être un vrai équipement public, un lieu de vie qui va être important. Maintenant, bon, c'est pas trop mal débrouillé en termes de subventions. C'est pas un équipement qui va coûter très cher.
Où en êtes-vous du projet de réhabilitation de la mairie de l'Île-Dieu ?
On est en phase d'appel d'offres. Donc on n'a pas encore retenu les offres, on est en phase d'analyse Alors, oui, je...
Début des travaux à partir de quand?
Ouais, je vois ce qui est sous-jacent à la question. Pourquoi vous êtes à la gare et que les travaux n'ont pas commencé? Ah ben oui, c'est parce que quand on a pris la décision d'aller à la gare, on avait besoin de 6 mois pour organiser notre déménagement, que ce soit les déménagements des lignes téléphoniques sécurisées telles que les passeports, de pouvoir avoir les autorisations de délocaliser la salle des mariages à la citadelle, etc. etc. Et en fait, on est obligé de prendre cette décision à peu près 6 mois avant le déménagement. Donc, 6 mois avant le déménagement, on n'était pas sûr du moment où on allait pouvoir démarrer. Donc, on a préféré quand même opérer. Maintenant, voilà, on dépouille les offres. Si on arrive à tout attribuer, ça va démarrer assez vite. Mais c'est une affaire de semaines.
La rue Clémenceau, fin des travaux à partir de quand?
Fin des travaux, j'ai plus en tête. Je crois que c'est
avril 2019.
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais.
Aménagement du front de port, pareil, avril 2019.
Alors, juste la rue Clémenceau, ce qui est...
Vous voulez faire un point?
Ouais, je veux faire un point parce que c'est important de dire ce qu'on est en train de faire. On avait cette voie qui est pas très large, où tous les camions passent, où on n'avait pas de zone de trottoir. C'était un espèce d'espace partagé qui était compliqué à gérer, avec les enfants qui vont à l'école, les camions qui passent, des piétons là-dedans. Enfin, un espace qui était dangereux. Maintenant, pour faire une réhabilitation complète comme ça, on avait commencé par le sud de la rue Clémenceau, hein, s'en aller sur le Carpissotte, entre le rond-point des Sicardières et Carpissotte. C'était une première tranche, et puis il y avait cette deuxième tranche. On a commencé il y a plusieurs années déjà par enfouir les lignes électriques, parce qu'il restait de l'aérien, là, c'était important de le faire. Ça nécessite aussi beaucoup de travail de bureau d'études. Il y avait aussi des questions de haies, des gens qui étaient soit sur le domaine public ou voire d'autres, ils étaient vraiment chez eux. Mais là, si on passe pas, on n'aura pas la largeur pour faire la largeur de voie nécessaire et un trottoir digne de ce nom qui fasse 1m50 pour sécuriser un peu les gens. Donc il a fallu mener des négociations aussi avec les riverains, etc. Donc tout ça, c'est long. Donc on est allé au bout. Donc là, les travaux ont démarré cet automne et je pense qu'à l'arrivée, on va réavoir un vrai confort de vie sur cette voie. Ouais.
Toujours dans les travaux, l'aménagement du front de port. Ça aussi, c'est un sacré travail.
Oui, c'est un sacré boulot. Ça demande, là aussi, c'est plusieurs années en amont pour discuter, réfléchir sur l'aménagement, etc. Alors là, j'entends bien, les travaux commencent, ça y est, tout le monde se réveille, qu'est-ce qu'elle faisante, etc. etc. Je vais répondre peut-être à quelques inquiétudes. La première, on n'arrivera plus à stationner. Alors, sur la question du stationnement, effectivement, on avait un stationnement en épi. À partir du moment où on a un double sens, on peut plus faire ce stationnement en épi, il faut passer sur du stationnement longitudinal. Et ouais, ça va être compliqué pour se garer en faisant des créneaux, etc. Les stationnements sont 50 cm plus longs que la norme. Donc, ce qui, pour permettre un peu... un peu en marche avant, donc on les fait plus longs, on les fait aussi plus larges, ce qui va permettre de stationner quand même plus facilement, et surtout la rotation du parking, parce que on a ce parking, on perd un certain nombre de places, alors on n'en perd pas la moitié, parce que on va plus loin qu'aujourd'hui.
Vous avez perdu combien de places? Enfin, le parking a perdu combien de places?
Je crois que c'est 17 places... 16 ou 17 places
en moins
ouais, sur ce parking. À l'arrivée, on va avoir 35 ou 36 places. Après, c'est pas tant le nombre de places qui est important, c'est la façon dont on les gère. Alors, la façon dont on les gère, c'est l'année dernière est rentré un nouveau système en vigueur où, quand avant on avait un horodateur, quand on dépassait, on prenait une prune. Et c'est vrai que c'était un peu dur de dire, tiens, t'as dépassé de 5 minutes et pom, tu te prends une amende. Donc maintenant, le législateur a souhaité modifier le système en disant, si on dérape, maintenant on facture du post-stationnement. C'est-à-dire que on va...
Le dépassement, par exemple, une minute...
Tu dépassais de 5 minutes, ça coûte 10 centimes, on va vous facturer 10 centimes en plus. Ouais, mais ça, comment on fait? Alors maintenant, il y a des bornes de stationnement, vous venez, vous rentrez l'immatriculation de véhicule, et puis si vous dépassez, ça vient être facturé. Donc c'est un système qui est un peu complexe. Nous, on n'avait pas forcément envie de faire payer les gens. Vous savez, sur l'eurodateur, ça paye pas les équipements. Donc l'objectif, c'est pas de faire payer. L'objectif, c'est que le parking tourne. Et donc cette année, enfin l'année dernière, on avait testé de remettre en zone bleue, c'est ce qu'il y avait de plus simple. Finalement, ça n'a pas si mal fonctionné que ça. Maintenant, faut aller plus loin. Alors je m'explique. Quand on dit ouais, il n'y aura pas de place, etc. Quand il y a marée basse, tout le monde est sur la cale, et pour autant, il n'y a pas plus de place sur le parking.
Actuellement, il n'y a plus de parking. Donc,
Non, mais je parle.
On avait bien compris.
Ouais. Quand il y a marée haute, il n'y a personne sur le parking et il n'y a pas plus de place. Il n'y a personne sur la cale et il n'y a pas plus de place sur le parking. Donc, ce qui est important, c'est que ce parking, il tourne. Donc, en fait, on va mettre des bornes de stationnement. Ça consiste à. C'est des plots. J'aurais bien un autre mot, mais vous allez me trouver grossier.
Tout ce qu'on brise.
c'est des plots. Et en fait, quand vous allez vous garer, la borne va vous indiquer une durée de stationnement qu'on aura prédéfinie. Je sais pas,
5, 10 minutes, un quart d'heure. Quoi.
Une demi-heure, peu importe. Et il va y avoir un décompte qui va s'afficher en vert. Alors, si c'est 30 minutes, ça va passer 29,59, 29,58, etc.
Un décompte, oui.
Ça reste en vert. Dès que ça va arriver à zéro, ça va décompter à l'inverse, mais en rouge.
Oui.
Et ça va surtout
une seconde,
envoyer,
deux secondes, cinq minutes, etc.
Ouais, ça va surtout envoyer un texto à la police municipale. Donc, en fait, les villes qui ont mis ça en place, ils n'ont pas à faire de verbaliser parce que c'est assez bien respecté. Mais au-delà de ça, en fait, nous, ça va nous permettre d'avoir des statistiques d'utilisation du parking, voir si on peut mettre des durées plus longues, moins longues, suivant les périodes, suivant les heures de la journée, suivant les jours, suivant la saisonnalité, etc., d'aller discuter avec les commerçants sur ces durées. Et donc, en fait, le parking, les 35 places bien gérées vont être beaucoup plus efficaces que 50 places mal gérées.
Fin des travaux, quand pour cet aménagement de fond de port ?
À peu près à la quinzaine d'avril.
Quinzaine d'avril ?
Ouais.
Tout sera fini ?
Ouais.
Oui ?
Oui.
Oui, oui.
Ouais, ouais.
Parce qu'il y a tout de même beaucoup de travail, c'est pour ça que...
Ouais, mais
beaucoup
en fait,
de travaux surtout.
Non, mais l'esplanade n'est pas très grande, hein, ça fait 200-300 mètres de long, c'est pas non plus... maintenant, effectivement, il y a la pose des pavés qui va prendre un peu de temps, il y a la réfection de la place lapillée aussi qui va prendre un peu de temps, mais... c'est prévu pour le 15 avril. Il n'y a qu'une chose qu'on ne fera pas pour le 15 avril et qu'on reportera à l'automne, c'est les plantations d'arbres. Si on ne plante pas des arbres au printemps, on les plante à l'automne, mais on sera peut-être le 20 avril. Mais pour le moment, on est plutôt en avance sur le planning, donc tout se passe bien. Quoi.
Le marché sera... sur cette nouvelle place.
Oui.
À partir
oui.
du 15 avril.
Dès que ce sera terminé, donc si c'est pas le 15, ce sera le 20, mais oui, c'est ça, ouais, c'est ce qui est prévu. Une autre inquiétude était aussi le débarquement de la compagnie vendéenne. Aujourd'hui, la compagnie vendéenne, les gens débarquent globalement
sur la route.
Parce que la route est assez large. Du reste, on avait mis le stationnement de taxi sur la route. Donc, du coup, quelqu'un qui vient chercher quelqu'un à l'embarcadère et ah, bah tiens, je peux me garer derrière le taxi. Tout d'un coup, il y a un deuxième qui se gare derrière, puis un autre qui se gare en face. Et puis les gens arrivent là-dedans, déboulent sur la route. Bref, tout est bloqué et on a des.
On a des embouteillages.
Ouais. Donc là, en fait, en faisant du stationnement longitudinal, on va gagner 2,50 m de largeur d'espace sur le bord à quai. Donc c'est pas rien.
En gros, pour faire simple, les gens pourront débarquer plus simplement.
Plus simplement, ouais. Ça va être un peu plus large, là. Et en face, en fait, on va avoir les barrières, les garde-corps, comme devant la mairie, qui vont empêcher les gens d'aller sur la voie. Et en fait, il y a des passages surélevés qui seront aux extrémités, globalement devant la mairie, puis devant chez NK à peu près. Et en fait, les gens, quand ils vont aller traverser, parce que quand on arrive, on pose son sac, tiens, on trouve machin, paf,
on discute,
etc. Et aujourd'hui, ça se passe sur la route. Donc là, ils passeront sur le, cet espace devant l'embarcadère. Et quand ils seront sur les passages surélevés, en fait, là, ils seront en déplacement, ils iront quelque part. Donc, on n'aura plus ce phénomène de blocage qu'on a aujourd'hui.
Un projet après la destruction de la salle Louis Michaud à la Citadelle ?
Non, pas de projet dans l'immédiat, mais ça fait partie des choses...
De l'avenir
ouais, ça fait des années qu'on en parle, et puis bon, à chaque fois, budgétairement, voilà, il y a d'autres priorités, et puis cette salle Louis Michaud, quand même la retirer, ça, effectivement, ça prépare l'avenir. Puis si on laisse des salles inoccupées, la nature ayant horreur du vide, on finit par stocker des trucs, des machins, et puis après, on n'arrive plus à faire les choses. Donc il y a la salle Louis Michaud qui va être, qui est en passe d'être détruite. Il y aura aussi l'ancienne
usine
en Guiry, comment au Bossille.
Et l'ancienne usine, que va-t-elle devenir ? Elle sera toujours en place ?
On parle d'un projet ? Oui, alors. L'aspect, en fait, il y a eu différents projets, ces projets qui sont coûteux, quels qu'ils soient. Et surtout, on y stocke des choses. C'est le hangar à bus, on y stocke un certain nombre de choses.
Les chars de la fête des fleurs.
Et donc, quel que soit le projet... une municipalité qui ferait un projet là-dessus et qui n'aurait pas de solution de remplacement pour les chars de la fête des fleurs, ça tirerait les foudres de la population. Et je trouve ça tout à fait normal. Le projet ne doit pas aller tuer un truc comme la fête des fleurs. Donc le préalable à faire un projet sur cette usine, c'était que les services techniques aillent en zone artisanale. Donc là, le projet démarre, la première pierre va être très bientôt. Dans l'idée, on a aussi un projet de faire un hangar à bus devant le CTM pour y mettre les bus. Et puis 3 mois, tous les 2 ans, on le mettra à disposition de la fête des fleurs pour faire les chars ici. Donc en gros, on fait place nette sur l'usine, ce qui là aussi prépare l'avenir. Donc les municipalités futures pourront réfléchir à un vrai projet sur cet espace.
En musique d'en parler, pas de projet pour l'instant. Pour l'ancienne usine.
Non, je veux pas lancer projet. Vous savez, on a déjà pas mal de choses qui sont en route. Il faut les gérer. Il faut faire les choses dans l'ordre. Et les choses dans l'ordre, c'était de faire le CTM sur la zone artisanale. Dorénavant, maintenant, les futures municipalités pourront réfléchir à un projet sur cet espace.
Vous nous avez parlé rapidement de l'écloserie. Que va-t-il se passer sur cet ancien site ?
Rien, on fout juste le bâtiment par terre. Non, mais il était devenu dangereux, il s'écartait par le haut. Enfin, il y a un moment donné, faut pouvoir le détruire. Mais là aussi, le préalable, c'était de faire le CTM en zone artisanale. Enfin, il y a plein de choses de liées. Et en fait, pour avoir les projets, c'est sûr, c'est bien de réfléchir à différents projets, comme on parlait de l'aspect tout à l'heure. Oui, on peut réfléchir à tout ça, mais si on ne peut pas les réaliser parce qu'on n'aura pas donné les moyens de délocaliser un certain nombre de choses, c'est des projets qui ne verront pas le jour. Donc on va dans l'ordre, on met le CTM sur la zone artisanale, c'est le préalable à un ensemble de projets derrière. Mais le préalable, c'est bien de mettre le CTM sur la zone artisanale.
Dans le cadre du grand débat national, y a-t-il un cahier de doléances à la mairie de Lille-Dieu ?
Oui, après les décisions d'en mettre un, je sais pas s'il est en place, il devrait être au Pôle Éco. Maintenant, moi je suis cahier de doléances, où chacun va aller...
Vous avez l'air sceptique sur ce grand débat national.
Non, pas sur le grand débat, sur le cahier de doléances, précisément.
Expliquez-nous.
Ce cahier de doléances, chacun va aller mettre sa petite contribution avec sa propre écriture. Au niveau national, d'éplucher tous les cahiers de doléances avec l'écriture de chacun pour en sortir quelque chose, sincèrement, j'y crois pas, quoi. Hein. Maintenant.
Ce que vous nous dites, c'est que ça va servir à rien, ces cahiers de doléances.
Pour moi, pas grand chose, quoi. On se fait peut-être plaisir. Maintenant, il y a ce grand débat qui est lancé, qui permet les contributions individuelles sur le site du grand débat. Je pense que déjà, ça, ce sera plus efficace.
Sur le site internet.
C'est ça, c'est sur un format informatique, donc c'est plus simple derrière pour faire des tris, etc. Enfin, je me mets à la place des gens qui vont éplucher tout ça. Et après, il y a ce grand débat qui est articulé autour de quatre grands axes. Nous, en tant que élus locaux, c'est pas à nous de... Nous ne sommes pas les organisateurs de ce grand débat, donc c'est pas à nous de le porter. on doit être facilitateur maintenant. C'est un peu la position de l'Association des maires de France. Donc, en clair, on mettra des salles à disposition, mais on ne veut pas être le modérateur du débat. C'est-à-dire que ce soit moi qui tienne le micro, qui fasse parler les gens, qui retranscrive, machin. Je ne pense pas qu'on serait dans notre rôle. Donc, ce qu'on fait là, c'est que on est en train de consulter des gens dont c'est le métier hein, d'animer des débats pour qu'ils soient organisés, donc quelqu'un d'un peu neutre et qui fera le compte rendu, le remettra en ligne, etc. Et je pense que c'est la bonne marche à suivre.
Ce que vous nous dites, c'est qu'il va y avoir un débat sur les lieux.
Oui.
Oui.
Oui, oui.
On a une date ?
Non, pas encore. Non, parce qu'on est en train de se finaliser avec. Avec des gens, je disais, dont c'est le métier. Donc après, ils vont caler les dates, etc. Et c'est pareil, comme il y a quatre grands thèmes, si on fait un débat de deux heures sur quatre grands thèmes, il ne leur sortira pas grand-chose. Maintenant, faire quatre débats, c'est peut-être beaucoup. On risque de perdre des gens au passage. Si on débat à 10 dans une salle, c'est pas terrible. Donc d'arriver à trouver le bon curseur... voilà, c'est complexe, mais bon, on va y arriver. Ceci dit, je rappelle à tout et chacun, chacun peut faire une contribution individuelle sur le site du Grand Débat. Maintenant, ce débat qu'aura l'Île-Dieu, ce sera quand même un peu la position, le ressenti de l'Île-Dieu, donc il sera écouté. Donc j'invite tout à chacun à y participer. Voilà, c'est dans tous les territoires, les gens s'expriment. Nous, sur un territoire insulaire, à fortiori, je pense qu'on a des choses à dire.
Dernière question, toujours dans la politique. Pensez-vous déjà aux prochaines élections municipales 2020 ?
J'y pense sans y penser.
Est-ce que vous allez vous représenter ? Vous ne savez pas encore ?
Non, j'en suis pas là. Mon objectif, là, dans les mois qui viennent, parce que là, on est quand même à 15 mois des municipales, c'est quand même pas... c'est demain sans être demain. Mon objectif dans les mois qui viennent, c'est quand même de bien lancer les gros dossiers là qui sont en route. Hein, ça va beaucoup m'accaparer parce que c'est des dossiers qui sont importants et je tiens à les regarder de près, à les suivre de près pour qu'ils soient à la hauteur de nos espérances. Donc pour le moment, je suis sur le mandat actuel et je continue mon mandat avec beaucoup d'assiduité, beaucoup d'énergie et voilà, c'est mon objectif sur les mois qui viennent.
Merci Bruno. Nourri, on rappelle, vous êtes le maire de l'Île-Dieu. À très bientôt.
Oui, à très bientôt. Encore une fois, une très bonne année à tout le monde, qu'elle soit faite voilà, de bonheur, de réussite, de santé, et que le bien vivre à l'Île-Dieu continue et qu'on soit fiers d'être les Îlets. Bonne année à tous.